Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Jardinier de Versailles, on va parler des chênes ce matin. Tous les chênes d'ailleurs ne se ressemblent pas.
Eh bien oui, il en existe une incroyable diversité. Près de 350 espèces ont été recensées à travers le monde. Alors les plus connues sont bien sûr, et vous le savez, le chêne pédonculé, le chêne d'Amérique, le chêne des marais, le chêne liège ou encore le chêne vert. Objet de cette chronique.
Ouais, le chêne vert qui a pour nom savant Quercus ilex.
Vous l'avez admirablement prononcé, bravo. Ilex, un terme qui désigne en botanique le hou, logique, le chêne vert produisant des feuilles qui peuvent rappeler cet arbre et qui, comme lui, sont persistantes en hiver. L'arbre atteint en situation lumineuse 15 à 20 mètres de hauteur. Il se plaît sur les terrains calcaires et son espérance de vie est de 1000 ans. Il est originaire des régions méditerranéennes, pardonnez-moi, et de la côte atlantique jusqu'à la Loire.
Oui, j'en déduis qu'il ne doit pas aimer beaucoup le froid. Hein.
Oui, mais seulement quand celui-ci est intense et de longue durée. Il est par exemple possible d'en planter en région parisienne, à l'état naturel. On en voit beaucoup dans les forêts de bord de mer, dans le Roussillon et dans les Alpes de Provence.
Alors, Alain, vous avez déjà expliqué ici que tous les arbres fleurissaient. Alors, à quoi ressemble la fleur du chêne vert?
Oui, il est vrai que quand on regarde cet arbre, on voit pas les fleurs généralement. Elles sont tellement discrètes. Alors, pour être simple, sachez qu'il fabrique des chatons jaunâtres semblables à des grappes qui produisent du pollen qui va se déposer au cœur des fleurs femelles. Donc, il produit des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied. Et ces fleurs femelles ressemblent à de minuscules petits glands. Sachez enfin que si l'arbre attire avec ses fruits les sangliers et certains oiseaux, il attire un champignon et pas n'importe lequel. Je sais que vous l'aimez, enfin j'espère que vous l'aimez, la truffe.
Eh ben, on va en prendre quelques-unes au passage.
Je ne vous ferai pas le coup de vous dire que je suis venu avec.
Allez, les questions et les questions des auditeurs et vos réponses, Alain Baraton. Stéphanie et Olivier, ils habitent à La Réunion et leur manguier fait des fleurs, mais depuis 4 ans, les fleurs sèchent et tombent. Alors, se passe-t-il?
Je ne connais pas tellement les problèmes phytosanitaires de La Réunion. Ce que je sais, en général, pour, je dirais, la France métropolitaine. Quand un arbre fruitier produit des fleurs et que celles-ci n'arrivent pas à maturité, les principales raisons sont tout d'abord un problème d'irrigation, ce qu'on appelle le choc hydrique. Trop d'eau ou pas assez, la plante est quelque peu perturbée et elle se sépare des fleurs avant qu'ils ne puissent se transformer en fruits. Deuxième problème, bien sûr, le choc thermique. Il fait très froid, le lendemain il fait très chaud, ou il fait très froid tardivement, etc. Cela peut également provoquer quelques difficultés. Et il y a souvent également un autre problème dont on pense rarement, c'est le problème d'alimentation de la plante. Quand vous avez un sol beaucoup trop riche en azote, eh bien, la plante se développe et produit des feuilles au détriment des fleurs. Ce dont les fruits ont besoin, c'est de potasse. Donc, il y a peut-être un problème d'alimentation, de courant d'air, peut-être qu'il y a un problème de trop d'eau, de pas assez d'eau, ou de sol. Cherchez dans l'une de ces conditions-là et vous trouverez certainement la réponse. Je ne peux pas en dire davantage.
Comment on fait pour savoir s'il y a trop de potasse, trop d'azote, pas assez d'azote dans la terre?
Oh bien, on trouve maintenant dans le commerce, dans toutes les bonnes jardineries, des petits bâtonnets que l'on enfonce dans la terre et qui vous donneront le pH, le potentiel hydrogène du sol. C'est pas très compliqué à savoir.
Morgane, son jardin est infesté de renouées du Japon et elle ne sait pas quoi faire. Que lui conseillez-vous pour en venir à bout?
Ah, la renouée du Japon, c'est une plante incroyablement invasive. C'est une plante qui peut atteindre 2 ou 3 mètres de hauteur et qui produit des rhizomes. Une fois qu'elles sont en terre, c'est le cauchemar pour les arracher. Quand je dis le cauchemar, il est pratiquement impossible de s'en défaire. Quand on sait, je ferai bientôt un petit sujet d'ailleurs sur cette plante, parce que j'en ai jamais parlé dans les chroniques, c'est un petit peu étonnant. Car ce qui est étonnant, c'est de savoir que cette plante fut introduite au 19e siècle par un Hollandais et qu'il a même obtenu un prix avec cette plante. On était tellement content de voir la renouée du Japon qu'elle a été parrainée, elle a été primée lors d'un concours végétal. Alors comment faire? Eh bien l'arracher du mieux qu'on peut. C'est pas simple du tout. Le passage de tondeuse régulier ne réussira pas à éliminer la plante. Il faut vraiment arracher les rhizomes. Et là je dis courage.
Sur le même registre, Bénédicte, j'ai des bambous en pot. Depuis 3 ans, les tiges sont moins nombreuses, plus fines, moins hautes. La densité des racines est devenue trop importante. Dois-je racheter de nouveaux pieds? Elle parle de racines, en fait, parle de rhizomes.
Hein, ouais. Non, il suffit simplement, dans ce cas précis, d'extraire la plante du pot. Vous prenez une bêche, vous mettez le pot que vous venez d'extraire, je parle de la terre, au sol, vous divisez, c'est ce qu'on appelle la séparation de touffe avec la bêche, le pied en deux ou trois morceaux. En un mot, vous éclatez la souche du bambou, vous avez autant de nouveaux pieds. Il vous suffit ainsi de les replanter dans votre pot. Évidemment, vous mettez simplement un petit morceau extrait, vous aurez donc un jeune bambou dans un grand pot qui pourra reprendre sa vie. Mieux encore, vous... Pardonnez-moi, vous pourrez faire profiter à vos amis et à vos voisins des bambous restants.
Le bambou qui fait partie des plantes qui poussent le plus vite, vous me le confirmez ?
Tout à fait, il y en a une qui atteint un mètre de hauteur en quelques jours seulement, c'est assez incroyable. Et le bambou que j'aime à rappeler, qui est une plante porte-bonheur, ne dit-on pas, je tiens la vie par le bambou.
Et voilà, elle est faite celle-là. Oui. Jérémy vient d'acheter une maison près de Rennes, on lui a offert la plante bretonne par excellence, dit-il, un hortensia. Quel conseil pour planter cette hortensia et surtout l'entretenir ?
Qu'est-ce que c'est beau l'hortensia ! L'hortensia, ce qu'il aime, c'est les terres bien riches en humus. Il aime ce mélange de terres. Vous savez, vous promenez dans la forêt, il y a une couche superficielle. Voilà la terre idéale pour l'hortensia. Il aime les terres acides. Plus la terre est acide, et plus il va produire ses fleurs bleues extraordinaires. Il n'aime pas trop les courants d'air. Il n'aime pas trop également le soleil fort de midi. Vous lui trouvez un soleil doux, un soleil pas une belle situation. En vrai, vous verrez que vous aurez des hortensias ensuite extraordinaire. Et n'oubliez pas non plus de laisser les fleurs en hiver. Ces grosses touffes séchées, déjà elles sont belles, et elles empêchent le gel souvent de se déposer sur les jeunes petites fleurs et de préserver davantage le végétal du froid. Un froid qu'il ne redoute pas tant que ça, mais c'est quand même, il peut de temps en temps avoir quelques frissons.
Et ça vaut quoi quand on entend dire certains, pour donner la couleur aux hortensias, il faut mettre soit des tuiles, soit de l'ardoise, soit autre chose.
C'est exact, ça parce qu'on fait bien sûr que ça marche, parce qu'on transforme la structure du sol et la plante, bien entendu, va en profiter.
Elle va profiter des couleurs et des réactions chimiques pour se transformer en couleur.
Tout à fait, et la couleur de votre hortensia vous donnera de précieuses indications sur la structure de votre sol.
Allez, on termine avec un dernier conseil.
Arbre avec S entre parenthèses, un livre de Roger Mauduit qui nous parle simplement des arbres, qui nous précise que les arbres sont des repères, c'est un ancrage, ce sont des plantes que l'on trouve dans toutes les traditions, dans la symbolique. Très bel ouvrage que j'ai beaucoup apprécié et qui est publié aux éditions de Boré.
Merci Alain Baraton, jardinier de Versailles, et à demain.
À demain.